Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 9 janvier 2024. Il est 17h30, temps universel. Voici le sommaire. La force régionale de l'Afrique de l'Est, l'EAC, a définitivement quitté la RDC où le gouvernement congolais l'a jugé inefficace.
Ces troupes envoyées par ces pays ne sont toujours pas payées et ça crée diplomatiquement quand même des tensions entre les pays contributeurs et la RDC.
Plus de 6 000 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre l'Espagne en 2023, selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Ici aux États-Unis, la Cour d'appel de Washington examine la demande d'immunité pénale de l'ancien président Donald Trump. En France, le président Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal, 34 ans, au poste de Premier ministre. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Alexandrine Hollignon et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, le journal. L'ancien ministre gambien Ousmane Sonko, jugé depuis lundi en Suisse pour crime contre l'humanité, devrait enfin pouvoir s'exprimer, les juges ayant décidé de la poursuite du procès. Ousmane Sonko, 55 ans, est accusé de divers chefs de crimes contre l'humanité, dont la torture répétée et le viol répété qu'il aurait commis entre 2000 et 2016 sous l'ère de l'ancien président Yahya Jammeh, d'abord en tant que membre de l'armée, puis comme inspecteur général de la police et enfin comme ministre de l'Intérieur. Le procès doit durer un mois, mais le verdict n'est pas attendu avant mars. Plus de 6 000 migrants sont portés disparus l'année dernière en tentant de gagner l'Espagne, selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras. 2023 a été marqué par un afflux migratoire sans précédent dans l'archipel des Canaries, selon un rapport de l'ONG publié ce mardi. Les précisions avec Alexandrine Hollignon.
Au moins 6 618 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre l'Espagne. Ce chiffre équivaut à 18 migrants disparus par jour en moyenne et a pratiquement triplé par rapport à celui de 2022. C'est aussi le plus élevé comptabilisé par l'ONG depuis 2007. Caminando Fronteras a critiqué le fait que les autorités espagnoles ou des pays d'origine de ces migrants privilégient le contrôle de la migration au lieu du droit à la vie de ces personnes qui recherchent une vie meilleure en Europe et ne donnent pas assez de moyens aux sauveteurs. La grande majorité des disparitions est intervenue, selon Caminando Fronteras, entre les côtes du nord-ouest de l'Afrique et l'archipel espagnol des Canaries dans l'océan Atlantique. Selon l'ONG, les migrants sont partis en premier lieu des côtes du Sénégal, qui a fait face à un flot sans précédent de départs vers les Canaries.
La justice espagnole a décidé d'abandonner son enquête sur une affaire d'enlèvement d'opposants équato-guinéens. Le juge espagnol Santiago Pedraz, qui accusait trois proches du président équato-guinéen Teodoro Obiang, dont l'un de ses fils, d'être impliqué dans l'enlèvement et la torture d'opposants, a annoncé ce mardi sa décision de céder à la Guinée équatoriale, qui en avait fait la demande, la compétence pour enquêter sur l'enlèvement présumé et la disparition en novembre 2019 de quatre membres du mouvement pour la libération de la Troisième République de Guinée équatoriale. Le magistrat espagnol a justifié sa décision par le fait qu'il n'y avait, selon lui, aucun élément permettant de conclure que des faits aient été commis en Espagne. Ses opposants ont été enlevés au Soudan du Sud et amenés en Guinée équatoriale, selon un communiqué du tribunal madrilène.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a annoncé ce mardi la mort de 9 soldats dans la bande de Gaza la veille, un de ses bilans quotidiens les plus lourds depuis le début de son opération terrestre dans le territoire côtier palestinien. Selon les médias israéliens, 6 de ces 9 soldats tués sont morts dans l'explosion d'un camion de l'armée israélienne chargé d'explosifs et destiné à détruire des infrastructures souterraines. Des dizaines de soldats ont été blessés dans cette explosion. L'armée israélienne n'a pas donné de détails. Au total, selon l'armée, 185 de ces soldats sont morts depuis le 27 octobre, quand, après une campagne de bombardement intense, l'armée est entrée dans la bande de Gaza. Plus de 3 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé ce mardi à Tel Aviv le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à épargner les civils palestiniens. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Anthony Blinken a réaffirmé auprès de Benjamin Netanyahou le soutien américain à Israël et insisté sur l'importance d'éviter plus d'atteintes aux civils et de protéger l'infrastructure civile à Gaza, selon un communiqué du département d'État. Lors de son entretien avec le président israélien, M. Blinken a évoqué le moment très difficile que traverse Israël, tout en disant que le pays a des chances réelles d'intégration avec ses voisins arabes. Les craintes d'une escalade régionale du conflit entre Israël et ses autres ennemis, une alliance informelle de groupes armés soutenus par l'Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, n'ont cessé de croître. Les frappes israéliennes et les échanges de tirs avec le Hezbollah libanais, soutenus par l'Iran, sont quasi quotidiens.
Le procureur de la CPI, Cour pénale internationale, a déclaré ce mardi que les crimes contre les journalistes étaient inclus dans son enquête sur des crimes de guerre à Gaza, où plusieurs dizaines de journalistes ont été tués. L'ONG Reporters sans frontières avait annoncé en novembre avoir saisi la CPI pour des crimes de guerre commis contre les journalistes dans les territoires palestiniens et en Israël. Au moins 79 journalistes et professionnels des médias, en grande majorité palestiniens, ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon le Comité pour la protection des journalistes. L'ONU se dit très préoccupée par ce bilan élevé. Ici aux États-Unis, Donald Trump est à nouveau face à la justice. Il avait saisi la Cour d'appel de Washington d'une demande d'immunité pénale en tant qu'ex-président. Les détails avec Dilly Dico.
Ses avocats affirment qu'il jouit d'une immunité absolue pour ses actes alors qu'il était à la Maison-Blanche. Ils invoquent une jurisprudence de la Cour suprême des années 80 sur des poursuites civiles contre l'ex-président Nixon. Ils avancent aussi que Trump ne peut être jugé sur cette affaire en raison de son acquittement lors de la procédure parlementaire sur l'assaut du Capitole. En décembre, la juge Tanya Chutkan a rejeté sa requête, considérant qu'aucun texte ne protège un ancien président contre des poursuites pénales et ajouté qu'une procédure de mise en accusation n'est pas un procès pénal. L'appel des avocats de Donald Trump a tout de même suspendu la procédure, ce qui pourrait faire dérailler le calendrier du procès qui doit débuter le 4 mars. Pour le grand favori des Républicains à la présidentielle, l'audience de ce matin intervient à moins d'une semaine du début des primaires, lundi, dans l'Iowa.
L'opposant russe emprisonné Alexei Navalny, récemment transféré dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique, a annoncé ce mardi avoir été de nouveau placé à l'isolement pour une semaine. Il a annoncé sur les réseaux sociaux s'être vu infliger 7 jours d'isolement car il ne s'était pas identifié correctement. Il était arrivé dans ce nouveau centre de détention situé en Niamalo-Nenesti fin décembre au terme d'un long transfert pendant lequel ses proches n'avaient reçu aucune nouvelle suscitant des craintes à l'étranger. Ses soutiens assurent que les autorités russes cherchent à davantage l'isoler à l'approche de l'élection présidentielle de mars, à l'issue de laquelle la victoire de Vladimir Poutine semble acquise. Le Kremlin a annoncé ce mardi vouloir tout faire pour faire cesser les frappes ukrainiennes sur Belgorod, ville russe devenue la cible d'attaque de Kiev après que la Russie a repris des bombardements d'ampleur en Ukraine. Notre armée continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser le danger dans un premier temps, puis pour l'éliminer complètement, a déclaré le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, au sujet des attaques sur le sol russe. Il a accusé Kiev de viser délibérément des civils sur le sol russe à l'aide d'équipements militaires fournis par les Occidentaux. Ces propos interviennent après une dizaine de jours marqués en Russie par la multiplication d'attaques ukrainiennes visant Belgorod, une ville située à moins de 40 km de la frontière avec l'Ukraine. Des djihadistes du groupe État islamique ont tué au moins 14 combattants pro-régime en Russie lors d'une attaque contre un bus militaire dans le désert, a annoncé ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG, il s'agit de la deuxième attaque perpétrée contre l'État islamique, par l'État islamique contre les forces du régime en janvier. 9 soldats du gouvernement syrien et membres des milices ayant été tués le 1er janvier lors d'une attaque du groupe contre des postes militaires dans le désert oriental. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Alexandrine Holognon.
Ici aux États-Unis, l'enquête se poursuit mardi sur les avions Boeing Max 9 au lendemain de l'annonce par les compagnies américaines United Airlines et Alaska Airlines de la découverte d'éléments mal fixés lors de vérifications après la perte d'une porte en plein vol la semaine dernière par un appareil de ce type. L'agence américaine de l'aviation civile a demandé des inspections sur 171 Boeing 737 Max 9 cloués au sol dans l'attente de ce passage en revue. La Banque mondiale a alerté contre le risque d'une décennie d'opportunités manquées pour l'économie mondiale, alors que la croissance sur les 5 dernières années a été la plus faible enregistrée depuis plus de 30 ans, selon son rapport de perspective sur l'économie mondiale. L'institution basée à Washington s'attend en effet à une croissance de 2,4% de l'économie mondiale pour cette année, en recul pour la troisième année consécutive, après avoir atteint 2,6% l'année écoulée, selon les données publiées. En Afrique, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé la troisième revue du programme de prêt triennal du Mozambique, permettant un décaissement immédiat à Maputo d'environ 60,7 millions de dollars, a déclaré le fonds. Cette revue porte le total des décaissements au titre du programme de facilité élargie de crédit de 456 millions de dollars approuvé en 2022 à environ 273 millions de dollars, a indiqué le FMI lundi en fin de journée.
Et maintenant la page des sports, nous accueillons Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Mohamedou.
CAN 2023, tour d'horizon des groupes avec ce soir, le groupe C, un choc Cameroun-Sénégal.
Le duel entre le Sénégal tenant du titre et le Cameroun, vieil habitué de la Coupe d'Afrique des Nations, est une des affiches du premier tour dans un groupe C, comprenant également la Guinée et la Gambie, surprise de l'édition précédente. Le 19 janvier, les deux géants vont croiser le fer au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Cette fois, le Sénégal semble un peu plus fort. Les Lions de la Teranga ont enfin décroché leur première CAN, justement à Yaoundé sur les terres de leurs rivaux, après deux finales perdues, dont une contre les Lions Indomptables en 2002. Le Cameroun aligne une équipe moins forte que par le passé, mais les Lions Indomptables, cinq fois vainqueurs de la CAN, restent de formidables compétiteurs.
Et dans le groupe D, l'Algérie favorite, le Burkina pour confirmer.
Ah oui, Mohamedou, même en plein renouvellement de génération, deux ans après une Coupe d'Afrique ratée, l'Algérie reste la favorite du groupe D de cette édition en Côte d'Ivoire devant le Burkina Faso, demi-finaliste en 2022, la Mauritanie et l'Angola. Les Fenech peuvent difficilement faire pire au stade de la paix de Boaké qu'au Cameroun, où ils avaient été piteusement éliminés dès le premier tour, dernier de leur groupe derrière la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Avec les champions d'Afrique 2019, le Burkina Faso, entraîné par le français Hubert Velud, fait figure de favori du groupe. Les étalons sont une puissance montante en Afrique et ont disputé les demi-finales de trois des cinq dernières CAN.
En NBA, Indiana domine Boston, mais perd Haliburton.
Les Indiana Pacers sont venus à bout des Boston Celtics 133-131, leaders à l'Est, mais ont perdu leur maître à jouer, Tyrese Haliburton. Le flamboyant meneur s'est blessé en glissant sur un brutal changement de direction près du panier et souffre d'une lésion au niveau de l'ischio-jambier de la jambe gauche. Il doit passer une ARM mardi qui déterminera la durée de son absence. En plus d'Haliburton, une autre star de la Ligue a souffert lundi. Les Memphis Grizzlies ont annoncé la fin de saison de leur meneur Ja Morant, touché à une épaule. Les Pacers avaient déjà battu les Celtics en quart de finale de la Coupe NBA en décembre, mais venaient de subir une cinglante défaite à domicile contre le même adversaire samedi dernier, 118-101. Boston, favori pour le titre NBA, a mis au repos lundi sa star Jason Tatum. En son absence, son lieutenant Jaylen Brown a pris le jeu à son compte avec 40 points sans succès.
Merci Eric.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait donné à la Force régionale de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC, jusqu'au 8 janvier 2024 pour quitter le pays en raison de l'absence des résultats satisfaisants sur le terrain. Pour parler des activités et du bilan de cette force, Antoine Roger Bolamba a joint le professeur Bob Kabamba. Le politologue évalue également l'état de siège décrété par les autorités pour lutter contre l'insécurité dans l'Est du pays.
La situation à l'Est s'est dégradée au compté de plus en plus de morts et que l'armée congolaise était incapable de pouvoir éradiquer ces différents groupes armés, aussi bien les groupes armés nationaux que les groupes armés étrangers. À ces groupes armés interviennent aussi des forces nationales étrangères qui sont impliquées dans ces violences dans cette partie de la RDC. La RDC espérait bénéficier, entre guillemets, d'une dynamique d'intégration régionale qui pourrait pacifier l'Est. Mais malheureusement, cette dynamique n'a pas pu porter ses fruits. Lorsque l'on parle de l'engagement des forces dans un contexte conflictuel, ces forces étrangères viennent toujours à ce qu'on appelle des termes d'engagement. Or, lorsque l'on lit les termes d'engagement de ces forces, mais ces termes d'engagement de ces forces sont presque les mêmes que les termes d'engagement des forces des casques bleus de l'ONU. Et de ce fait, c'est que l'incompréhension aussi du côté congolais, c'est qu'ils pensaient que ces forces venaient non pas dans le cadre des termes d'engagement comme ceux de l'ONU, mais avec des termes d'engagement offensifs, c'est-à-dire faire la guerre. Et or, de l'autre côté, ils disent non, non, nous ne sommes pas venus faire la guerre, nous sommes venus faire une interposition pour pouvoir désarmer, et après avoir désarmé, nous allons arriver à un processus de pacification. Et de cette incompréhension, donc, elle ne pourra jamais produire les résultats escomptés. Donc, au lieu d'arriver à avoir des accalmies, on a eu plutôt une espèce d'exagération, une catalysation des groupes armés, une catalysation de la violence, et qui a amené la RDC à pouvoir demander à ce que la mission de ces forces puisse prendre fin le 8 décembre 2023.
Que retenir de la mission de l'EAC?
En termes de retombées, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des retombées. Il n'y a pas de retombées positives. On n'a que des retombées négatives. Et puisque dans un premier temps, on a eu simplement une accalmie sur les différentes lignes de front, on a eu quand même le fait qu'on a lancé ce qu'on appelait le processus de Nairobi, où on devait intégrer, désarmer et intégrer, cantonner, désarmer les forces négatives, ça veut dire tous les groupes armés, y compris aussi le M23, et les rétablir dans leur communauté. On a eu quand même une accalmie pendant un moment pour arriver, entre guillemets, à faire aboutir ce processus, mais malheureusement, ce processus n'a pas abouti. Et comme le processus n'a pas abouti, donc on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a eu des retombées positives pour la RDC, que du contraire, ça a été plutôt des retombées négatives, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan diplomatique, puisque en mettant fin aux troupes de la communauté est-africaine, et qui avait envoyé ces troupes sur la RDC, en sachant bien que ces troupes envoyées par ces pays ne sont toujours pas payées, et ça crée diplomatiquement quand même des tensions entre les pays contributeurs et la RDC, qui n'a pas arrivé à rétribuer les forces qui étaient déployées sur son terrain.
Professeur Bob Kabamba, joint en Belgique par Antoine Roger Bolamba.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Sénégal, un collectif de 28 prétendants à la présidentielle demande des mesures rectificatives du système de contrôle des parrainages. Hier, ils ont formellement déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Alexandrine Hologion a joint l'ancienne première ministre Aminata Touré. Elle fait partie de ceux qui dénoncent la fiabilité du système des parrainages.
Pour ce qui me concerne moi-même, nous avons déposé notre fichier de parrainage en version électronique et papier. Comme l'indique la loi, nous avons reçu un récépissé du chef des greffes du Conseil constitutionnel qui ouvre la clé, qui vérifie. Et quand mon mandataire est allé pour le contrôle effectif, on lui a dit que toute une région du Sénégal, la région de Saint-Louis notamment, ne figurait plus sur cette fiche. Donc évidemment, il y a eu une manipulation de cette clé, ce qui nous a ôté tous les parrains de la région de Saint-Louis. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont indiqué que 10 000 de nos parrains n'existaient pas dans le fichier, alors que ces 10 000 personnes, justement parce qu'ils tenaient à nous parrainer, nous ont remis copie de leur carte d'électeur. Donc voilà 10 000 de nos parrains qui ont leur carte d'électeur en bonne et due forme et on décide qu'ils ne font pas partie du fichier. Je rappelle également que la Commission électorale nationale autonome, qui, selon la loi, supervise toutes les opérations électorales et référendaires, la CENA, comme on l'appelle, a dû émettre un communiqué pour dire qu'elle ne disposait pas du fichier électoral mis à jour. Donc, on se demande de quel fichier dispose le Conseil constitutionnel.
Donc, vous avez déposé ce recours. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du Conseil des sages?
On s'attend à ce qu'il stoppe cette opération qui n'a aucun sens, qu'il nous restitue nos parrains qui nous ont été volés et qu'il laisse librement les gens aller à l'élection présidentielle et les Sénégalais décideront de qui ils veulent à la tête de l'État du Sénégal le 25 février 2024.
Qu'est-ce qui se passerait au cas où votre demande n'est pas reçue ou que vous n'ayez pas de suite à cette demande?
Nous nous mobiliserons avec notre dernière énergie. On ne va pas laisser la démocratie entre les mains de quelques personnes qui souhaiteraient justement sélectionner des candidats. Ce n'est pas admissible. Nous appellerons les citoyens, les Sénégalais à défendre la démocratie. Il n'y a pas d'autre solution. Et j'attire l'attention aussi de la communauté internationale. Voilà comment on installe l'instabilité dans les pays africains. À vouloir imposer des dirigeants en faussant le jeu, en triant, en sélectionnant les candidats, voilà comment après nos pays tombent dans l'instabilité. Je rappelle que le candidat Ousmane Sonko, qui est de l'opposition, non seulement est en prison, mais on lui a empêché également de participer à l'élection malgré deux décisions de justice. Et d'autres suivront, mais ça, ce sera inacceptable. Mais il faudrait que les amis du Sénégal le sachent, les Sénégalais d'abord, parce que c'est à nous de défendre notre démocratie, et nous le ferons avec tous les moyens dont nous disposons.
C'était l'ancienne première ministre Aminata Touré, candidate à la présidentielle au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Bénin, la fête du Vodoun sera célébrée demain comme chaque 10 janvier. Un nouveau concept ancré dans les arts, la culture et la spiritualité Vodoun a été adopté. C'est à travers la première édition des Vodoun Days qui démarre ce mardi 9 janvier à Ouida, une ville balnéaire témoin de la traite des esclaves située à près de 40 kilomètres de Cotonou. Deux jours d'intenses festivités autour de la religion Vodoun. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou. Nous, Ginette Fleur à Dandé.
Depuis quelques jours, Ida Gouy demande. Cet ancien port négrier n'a jamais connu pareil engouement. Qu'il soit fidèle sympathisant de la religion vaudou, afro-descendant en quête de racines, personne ne veut se laisser compter l'événement qui, selon le président de la République, est l'héritage de l'Afrique. Patrice Talon.
Si l'Europe a des cultures judéo-chrétiennes, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique a de quelle culture? Nos parents étaient des païens. Nos aïeuls étaient des païens. Et ils ont créé les danses. Ils ont créé le dessin, les masques. Et c'est cela qui a constitue notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes. L'Afrique est de culture vaudou. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau, que le monde aura du plaisir à le découvrir.
Pareil tenu, pourrait-on dire, puisque la ville d'Ouida accueille les Vodoundais qui démarrent ce jour et ce pendant deux jours. Pour le ministre de la Culture, cette première édition porte en elle de grands espoirs pour la sauvegarde du patrimoine culturel et cultuel vaudou. Jean-Michel Abimbola.
Il s'agit d'une initiative qui transcende le simple cadre de la célébration pour devenir un événement que nous voulons planétaire, symbole de notre héritage culturel. Ça vise à célébrer les arts, la culture et la spiritualité vaudou dans un élan de redécouverte et de réappropriation de notre patrimoine.
Les Vodoundais entendent surtout redorer le blason de cette religion criblée de tous les maux, selon le professeur d'université Tapo Maouyon, président du comité des rites dont la mission est de travailler à éviter la désacralisation de ce patrimoine.
Le Bénin est considéré comme étant le berceau du vaudou. Et en tant que tel, le vaudou qui est mal compris parce que mal présenté par les colonisateurs à l'époque, ce vaudou peut permettre lorsque on tisse autour de lui au pays d'obtenir des ressources supplémentaires par l'intermédiaire d'une filière touristique.
Les festivités permettront également aux Béninois ainsi qu'aux touristes et afro-descendants de revivre le trajet fait par les esclaves avant leur déportation. Pour sa première édition, plusieurs concerts géants sont prévus avec des artistes de pointe comme le Congolais Koffi Olomide et de nombreux nationaux dont Saboran Danialou qui tire son inspiration du vaudou.
Je sais que le vaudou, c'est beaucoup de mélodies, beaucoup de percussions, beaucoup de musique. C'est une musique très 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 forte. Le vaudou ne tue pas, c'est l'homme qui tue. Pas le vaudou, il va dire à son vaudou, je veux tuer. C'est lui qui est mauvais, le vaudou n'est pas mauvais.
Même si la célébration prend un nouveau format, les dignitaires religieux ont une place de choix parce qu'ils restent et demeurent les gardiens qui veillent à la sauvegarde de la sacralité de ce culte qu'on partage de nombreux pays d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique.
Le politique a besoin de ces dignitaires-là pour pouvoir obtenir l'assentiment et l'organisation nécessaire autour du vaudou. Les dignitaires aussi ont besoin du politique pour que le vaudou soit davantage révélé.
Les festivités se dérouleront au sein de la cité historique de Ouida et sur la plage à proximité de la porte du non-retour. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Conflit entre Israël et le Hamas. Après la mort de deux autres journalistes qui couvraient la guerre à Gaza, les Nations Unies se disent alarmées par le nombre historiquement élevé de morts, soit près de 80 professionnels de médias tués depuis octobre. La rédactrice en chef de la VOA pour la liberté de la presse, Jessica Jerrett, nous en dit plus. Le récit est de Dini Niwa.
Une journée sombre alors que le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, Wael Al-Dadou, fait ses adieux à son fils Hamza. Hamza Al-Dadou est l'un des deux journalistes tués dimanche près de Rafah. Pour Wael, cette perte s'ajoute à la douleur de la famille. En octobre, le chef du bureau a appris lors d'une émission en direct qu'une frappe avait tué sa femme, son fils de 15 ans, sa fille de 7 ans et son petit-fils. Son fils Yehia a été grièvement blessé. En décembre, Wael Al-Dadou a lui-même été blessé alors qu'il était en mission.
Comment quelqu'un peut-il recevoir la nouvelle de la mort de son fils aîné et de tout ce qu'il y a dans ma vie après avoir perdu des membres de ma famille, ma femme, mon fils Mahmoud, Cham et Adam? Comment puis-je recevoir cela?
Hamza, le fils de Dadou, et Mustapha Touraya, pigiste de l'agence France Presse, rentraient d'une mission dimanche lorsqu'une frappe aérienne israélienne a touché leur véhicule. L'armée israélienne a déclaré à Reuters qu'elle avait identifié et frappé un terroriste et qu'elle était au courant des informations selon lesquelles deux autres suspects se trouvant dans le véhicule avaient également été touchés. Les deux journalistes tués dimanche sont les derniers à avoir trouvé la mort dans ce que les organismes de surveillance considèrent comme un bilan sans précédent pour les médias en temps de guerre. Total des morts dans les médias, 79, 72 Palestiniens, 4 Israéliens, 3 Libanais. Depuis lundi, au moins 79 journalistes ont été tués, presque tous des Palestiniens, selon le Comité pour la protection des journalistes. Ce taux élevé sur une courte période a alarmé les Nations Unies. Florencia Soto Nino, une porte-parole associée des Nations Unies, a réitéré lundi les appels pour que les journalistes ne soient pas pris pour cible.
Les journalistes risquent leur vie pour apporter la vérité à tout le monde, dans le monde entier. Et c'est de plus en plus difficile dans les conditions auxquelles ils sont confrontés là-bas.
La VOA a tenté en vain d'obtenir un commentaire à l'ambassade d'Israël à Washington, mais un porte-parole de l'ambassade a déclaré précédemment que les forces armées israéliennes ne prennent jamais délibérément les journalistes pour cible. Des enquêtes menées par des groupes tels que Reuters contredisent cette affirmation. Le mois dernier, une analyse a révélé que des tirs de chars israéliens avaient tué en octobre un journaliste de l'agence de presse Issam Abdallah dans ce qui s'apparente à une attaque délibérée. Les enquêtes ont montré qu'Israël connaissait l'emplacement de l'équipe de journalistes. Maya Gebeili, chef du bureau du Liban, affirme que Reuters fait pression pour que les responsables rendent des comptes. Elle a souligné les conditions dangereuses dans lesquelles travaillaient ses collègues.
C'est un schéma dévastateur dans lequel nous voyons des journalistes incapables de faire leur travail et empêchés de le faire par ce type de bombardement aveugle.
Avec l'intensité des combats et les restrictions d'accès à Gaza, les reportages des journalistes locaux sont vitaux, dit-elle.
Lorsque vous avez des journalistes qui sont sur place et qui fournissent ces retransmissions en direct, cela rend l'obligation de rendre des comptes d'autant plus possible.
Alors que Dadou enterre un autre de ses enfants, la Cour pénale internationale confirme à Reporters sans frontières que les crimes contre les journalistes sont inclus dans son enquête sur la guerre à Gaza.
« C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.